Je m'appelle Serge Maury, je suis archéologue, préhistorien. En ce moment, je suis à la retraite depuis maintenant plus de 10 ans. Mais un archéologue, ce n'est jamais à la retraite. Donc je suis toujours occupé par la recherche archéologique.
Et pour vous, votre intérêt pour la préhistoire, quand est-ce qu'il a commencé ? Comment ça a démarré tout ça ?
Oh, il a commencé très tôt, en fait. Étant né en Périgord, forcément, on est confronté à un moment donné à la question de la préhistoire, vu le nombre de sites qui se sont dans ce territoire, et en particulier dans cette vallée où nous sommes là, en vallée de Vézère, mais aussi en vallée de Dordogne, mais aussi sur tout l'ensemble du territoire. Donc dès ma préadolescence, même quand j'étais gamin, j'ai eu à visiter beaucoup de sites. L'ancien musée des Aizy, bien sûr, qui était dans le château à l'époque. Et je me suis beaucoup questionné sur les objets que je voyais dans les vitrines. Et en particulier, fils de petit agriculteur, habitué aux outils et tout, on me racontait que ces morceaux de pierre, de silex un peu altérés, tout ça, ça avait servi à tuer des animaux, à couper de la viande, et j'y croyais pas. Ce qu'on a dans les vitrines des musées, ce sont, entre guillemets, des déchets, pratiquement. C'est-à-dire, ce qu'on retrouve, en fait, c'est souvent, j'ai l'habitude de dire, un peu le fond des poubelles, quoi. Bon, alors, parmi ces objets, il y en a bien sûr quelques-uns qui sont encore en très bon état, qui viennent d'être fabriqués, par exemple, qui ont été peu utilisés. Mais la grande majorité sont des objets abandonnés, d'une certaine manière. Donc, ça m'a beaucoup questionné, des gamins, sur cette question-là. Et c'est pas pour rien que, par la suite, je suis devenu archéotechnologue, c'est-à-dire celui qui s'intéresse à la technique, au savoir-faire technique des hommes de la préhistoire. Voilà, ça a été mon premier questionnement quand j'étais gamin. Et puis aussi, j'ai eu la chance, bien évidemment, parce que c'est l'avantage de l'âge, de visiter Lascaux, l'original même, quand j'étais à l'école. Voilà. Les visites de Lascaux à l'époque, c'était des groupes d'écoles qui se succédaient, dans l'original, qui se succédaient, où les gamins se bousculaient, chahutaient, etc. Et moi, j'avais envie de connaître et j'avais été un peu révolté par cette situation. Voilà. C'est resté d'ailleurs ancré en moi, ça, le fait que je n'ai pas pu faire une visite, je dirais une bonne visite de la grotte à cause de la foule qui circulait à l'intérieur de cette grotte. D'ailleurs, on a vu après ce que ça a pu donner, effectivement, au niveau des résultats. La conservation de la grotte en a été, bien évidemment, menacée par ces visites un peu intensives. Et puis, par le milieu dans lequel j'ai été dans mon parcours scolaire, j'étais en pension, j'étais dans une institution à Bergerac, et là ils avaient récupéré des vestiges archéologiques, dont des silex, parce qu'à l'époque, vous savez, les premiers préhistoriens étaient des instits ou des curés. Voilà. Et un jour, j'avais été amené, en nettoyant un grenier, un grand grenier, j'ai découvert des vitrines avec des silex à l'intérieur, une vitrine qui commençait à être un peu, en mauvais état. Et je m'y suis intéressé. Et comme à l'époque, j'allais à la prison de Mauzac, invité par un visiteur de prison qui faisait de l'animation auprès des prisonniers, eh bien, j'y allais jouer de la musique avec des copains, etc., dans la prison. Et il se trouve que le monsieur qui était justement visiteur de prison, un jour me dit « vous revenez jeudi prochain ». Alors j'ai dit « on ne pourra pas revenir parce qu'on a un club maintenant ». Le jeudi pour la préhistoire, voilà. Ah, il me dit, mon fils s'intéresse aussi à la préhistoire. Et je dis, mais ça m'intéresse parce que moi, je ne connais pas trop encore, donc il fait des fouilles déjà et tout, bref. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un qui est un éminent préhistorien aujourd'hui et qui est resté un ami, qui est Jean-Michel Geneste, qui a été conservateur de Lascaux. Et je lui ai montré, bien sûr, on avait à l'époque 16 ans, quoi, 15 ans, 16 ans, je lui ai montré cette collection qu'il y avait dans le grenier, et il m'a dit, mais elle est très intéressante, parce que c'est un site HLN du Bergeracois qui est très connu, et voilà. Donc ça a été mon premier contact avec un préhistorien amateur, et ce contact est bien sûr resté en contact, Et dès que je suis sorti de mes études secondaires, je me suis inscrit dans une école d'éducateurs à Bordeaux, mais en gardant quand même dans ma tête, bien sûr, cette passion pour la préhistoire, si bien que lors de mes études à Bordeaux, je me suis en même temps, toutes mes vacances étaient occupées à aller faire des fouilles, j'étais bénévole, et un jour je me suis dit, tiens, mais pourquoi je ne m'inscrirais pas à l'université pour suivre les cours de M. François Borde. Il se trouve que François Borde était un des premiers qui a commencé à tailler les silex de manière un petit peu scientifique, je dirais quand même, enfin, même si les méthodes étaient encore... basique, je dirais, au niveau des protocoles expérimentaux, mais en tout cas, moi je m'y intéressais aussi, parce que je m'intéressais aux gestes techniques depuis très longtemps, hein, depuis ma visite du musée là, en question, je disais comment c'était fabriqué, à quoi ça servait, comment ça marchait, enfin, etc. Toutes ces questions-là m'étaient toujours dans ma tête. Et donc je me suis mis dans un premier temps de manière complètement personnelle, à faire du travail de technique sur le silex en particulier, donc débiter du silex, fabriquer des outils, enfin, etc., etc.
C'est-à-dire donc, que vous voilà. Êtes mis, vous, à prendre des morceaux de pierre et à essayer de les tailler, c'est ça?
Ah oui, mais j'ai commencé très tôt, ça. J'ai commencé bien avant, d'ailleurs, au moment où je faisais mes fouilles pendant mes vacances, etc. Quand je fouillais à Pont-d'Ambon et ailleurs, à Compsognières après, enfin, mais, je faisais de ce travail-là, je dirais d'apprentissage approfondi. Déjà, c'était un apprentissage approfondi.
Et comment ça se passe, du coup, pour apprendre ça? On commence à taper sur des cailloux
Ah ben oui, on commence, bien sûr. C'est la méthode des essais et des erreurs. Mais en même temps, je lisais des ouvrages qui avaient été écrits là-dessus par les premiers qui avaient travaillé sur ce sujet. Et en particulier, qui commençaient à analyser comment se passait une fracture dans les roches siliceuses, qui est une loi de la physique, en fait, qu'on appelle la fracture conchoïdale, et ça se casse pas n'importe comment. Il faut des angles bien précis, etc. Et donc, au départ, bien évidemment, on connaît pas tout ça de manière précise, et puis au fur et à mesure de l'apprentissage, bien sûr, on a davantage d'informations sur le sujet, et en même temps, on étudie le matériel archéologique. Donc on va remarquer un certain nombre de stigmates, de traces liées au débitage et au façonnage des objets qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'on appelle, nous, les chaînes opératoires, c'est-à-dire comment se développe le façonnage et le débitage de ces roches dures. Donc c'est tout un travail, après, bien évidemment, qui est un travail d'expérimentation gestuelle, mais aussi un travail intellectuel, bien évidemment, c'est les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, et aujourd'hui mon travail consiste à faire ce qu'on appelle des protocoles expérimentaux pour pouvoir comprendre comment les choses se sont passées. Alors pour ça, on va refabriquer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec les mêmes matières premières, avec le même type d'outils qu'eux ont utilisé, etc. On va refabriquer les objets selon les mêmes chaînes opératoires que celles qu'on a observées archéologiquement. Et on va ensuite les utiliser de différentes façons. Par exemple, pour vous donner une petite idée de la chose, si vous avez une lame, par exemple, qui a des traces d'utilisation, on va l'utiliser, nous, pour faire divers types de travaux. On travaille de l'os, on va travailler découper de la peau, on va, par exemple, découper de la viande, on va, bon, etc. Mais chaque fois, de manière très séquencée. Donc, à partir de là, tout ce travail va nous permettre de reconstituer les gestes techniques de ces hommes-là, le mode d'utilisation de leurs objets, de leurs outils. Voilà. Et
est-ce que c'est difficile, techniquement, de tailler un silex qui soit efficace?
Alors, difficile, c'est difficile à définir en tant que difficile ou pas difficile. Ça demande un long apprentissage et une bonne compréhension des gestes techniques, une bonne connaissance des matières. Donc, c'est du temps. C'est du temps. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Moi, j'avais vu un film, Edno, il montrait un groupe papou traditionnel. Ils avaient été chercher de la pierre pour ramener ça à leur village. Et là, quand ils sont revenus, l'ancien, qui était le tailleur expérimenté, s'est installé. Et il y avait tout le groupe, toute la tribu qui était là, les hommes, les femmes, tout le monde. Et puis, à l'écart, il y avait les enfants, qui n'étaient pas autorisés à être là, dans le cercle des initiés. Et là, il s'est mis à tailler, et les adultes qui étaient en face, eux, l'accompagnaient par des chants et par des danses, qui d'ailleurs se modifiaient en fonction du succès ou du non-succès du geste du tailleur. Enfin, il y avait un accompagnement comme ça, très, très fort, une participation, je dirais, de tout le groupe à l'acte de fabrication de cet objet, qui était un objet important. Et les enfants, à l'écart, le reporter qui avait fait ce film, montre les enfants qui étaient en train de vouloir savoir ce qui se passait. Comme ça, ils regardaient, ils se levaient, ils bougeaient dans tous les sens pour essayer de voir. Bon, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient trop loin, mais bon, voilà. Et puis, l'ancien s'est levé, il est parti, et les adultes ont suivi, donc ils ont quitté l'espace dans lequel il avait taillé. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir pourquoi ça a été important de voir ce film pour nous, des archéologues, qui s'occupent de technique, c'est qu'à ce moment-là, les enfants sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris des morceaux de pierre, et puis ils ont imité le geste de l'ancien. Ils ont fait ce qu'on appelle le premier temps de l'apprentissage, qui est la gestuelle, qui est psychomoteur, c'est-à-dire la relation entre le cerveau et la main, qui va dire, on a une pierre, on tape avec une autre dessus. Alors bien sûr, il tapait n'importe comment, à droite, à gauche, sur le côté, bon bref. Alors vous allez voir, c'est très intéressant, parce qu'on a fouillé un site, nous, où on a retrouvé des déchets de taille, et on a remarqué que ces objets-là avaient des traces d'impact partout, à tous les endroits, ce qu'on appelle, nous, les petits concoïdes, c'est-à-dire quand on tape sur une masse sans que ça enlève d'éclat, parce que l'angle n'est pas bon, et on a pu, avec un collègue du CNRS à Paris, proposer comme interprétation que c'était certainement les enfants qui, après une séance de taille et tout ça, etc., sont venus et ont pris les objets et se sont mis à taper dessus pour imiter les adultes. Voilà.
Cette histoire, elle pose aussi la question de la transmission des gestes techniques. Puisqu'il y a une technique élaborée pour construire ces silex, comment se transmet ce savoir?
Dès le paléolithique moyen, dès l'homme de Néandertal, les systèmes de débitage sont complexes. Complexes. Ça demande un apprentissage et ça demande une transmission. Et on peut à peu près sûrement dire que le langage de transmission existait déjà. Qu'il y avait forcément, parce que c'est tellement compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire. Souvent, quand j'interviens, je dis au public, attention, c'était pas des casseurs de cailloux. Essayez-vous de faire des grandes lames droites, directes, ou de faire une belle pointe de flèche, etc. Je vous donne ce bloc de silex, allez-y. Mais vous n'allez pas y arriver, j'en suis sûr, mais certain. Même si vous êtes quelqu'un de moderne et d'intelligent, non. Parce qu'il faut passer par tout un cheminement d'apprentissage long, de compréhension de la matière. Et je pense d'ailleurs que les anciennes, nos ancêtres, qui étaient certainement comme toutes les tribus traditionnelles, les groupes traditionnels animistes, c'est-à-dire qui pensent que tout a un esprit, les animaux ont un esprit, les plantes ont un esprit, et même les pierres ont un esprit. C'est-à-dire que quand ils devaient tailler une pierre, ils échangeaient avec la pierre, ils dialoguaient avec la pierre. Parce qu'ils n'avaient pas les connaissances de la physique, comme on a aujourd'hui. Ah, c'est la fracture concoïdale, etc. Non, fracture concoïdale, pour eux, c'était rien. Par contre, la pierre, elle leur répondait. Elle répondait à leur acte. Quand elle leur tapait dessus, soit ça enlevait un éclat, mais pourquoi? Pourquoi moi j'ai envie qu'il y ait un éclat et puis il n'y a pas d'éclat? Si le bloc est rond, on ne peut pas faire d'éclat. C'est impossible, il n'y a pas l'angle favorable. Donc ça veut dire qu'il faut fractionner le bloc en deux, et encore là, il faut une technique particulière sur enclume, ou alors choisir un bloc qui, lui, présente un angle favorable inférieur à 90 degrés qui va permettre de l'entamer, de préparer des plans, ce qu'on appelle nous des plans de frappe, pour pouvoir mettre en œuvre tout un dispositif de débitage. Et ça, ça demande, sur le plan mental, une représentation mentale. C'est-à-dire, quand vous commencez à tailler, il faut que vous ayez une représentation de toute la chaîne opératoire mentalement. Parce que si vous n'avez pas cette représentation-là, là, je vais enlever un éclat là, mais ça va me donner ça, après ça va me donner ça, et ça là, et ça là, et puis je vais finir par avoir la forme que je cherche à avoir. Donc, je prévois la forme à l'avance. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quelque chose de complexe, qui demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que moi je pense, et depuis d'ailleurs, j'ai un autre rapport à la pierre, qui est celui d'écouter la pierre. Parce que la pierre, elle parle aussi, elle a son langage, bien sûr, elle a son langage en tant que fonctionnement de loi de la physique, donc c'est son langage à elle, mais en même temps, elle a des sons. C'est-à-dire que j'ai appris à partir de là, quand j'ai vu fonctionner ces groupes traditionnels, aborigènes, etc., que j'ai eu l'occasion et le bonheur de rencontrer à plusieurs reprises, j'ai compris qu'ils étaient à l'écoute et en dialogue avec. Voilà. Et moi, aujourd'hui, même quand je taille, j'écoute davantage la pierre que je le faisais autrefois. Parce que quand elle a un son, par exemple, un son cristallin, on peut savoir qu'à l'intérieur, elle est homogène. S'il y a un son un peu plus mat, il y a peut-être une inclusion à l'intérieur, c'est-à-dire un microfossile, des fossiles, des choses. Et puis s'il y a un son vraiment, alors ça veut dire qu'il y a une faille à l'intérieur, etc. C'est-à-dire la pierre, elle répond aussi avec ce qu'elle est, l'état dans lequel elle est. Voilà. Donc c'est tout ça, tous ces ensembles-là qui font qu'on arrive à pouvoir connaître le débitage de la pierre, quoi. Sinon, ben, on n'y arrive pas. Il faut une démarche très à la fois intellectuelle, bien sûr, mais sensible, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tenue, la position des mains, la position du percuteur, parce que là aussi, tangentiel, rentrant, etc. On a ensuite toute une gamme de langage, je dirais, d'échange avec la pierre, qui est très, très, très important. La préparation des points d'impact, enfin, on s'est rendu compte de tout ça parce qu'on en a trouvé trace sur les objets archéologiques. Donc ça, eux, ils l'ont connu et pratiqué de manière, je dirais, très savante.
Il y a un silex, peut-être, ici, sur lequel vous pourriez nous laisser imaginer un peu comment est-ce qu'il a été produit. Peut-être c'est quelque chose de trop complexe.
Alors, est-ce que j'ai un silex par ici? Je dois en avoir, oui, mais alors il faut que je cherche un peu, parce que là, je ne sais pas où je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis, là? Non, c'est pas là. Non, c'était mis où? Je l'ai cogné. Ah, voilà, ça y est. Attention, vous le dépliez, mais vous faites gaffe, hein. C'est fragile. Je fais exprès de vous le faire déplier, parce que comme ça, on dit, mais qu'est-ce que c'est Vous pouvez le prendre dans la main. Hein.
C'est plus lourd que ce que je pensais.
Eh ben, c'est du silex. Hein. Alors ça, c'est une technique de façonnage qui a été utilisée par des solutréens. Voilà, ça s'appelle une feuille de laurier.
Vous pouvez essayer de le décrire un peu ?
Le décrire, ben c'est une pointe qui fait à peu près 20 cm, un peu plus, 22 cm de long, qui a une forme, je dirais, qui est d'une pointe, on appelle ça des feuilles de laurier, parce que c'est une forme allongée, d'une feuille allongée, voilà, avec une base plus large, bien évidemment, et plus courte.
Et là, vous pouvez nous faire imaginer comment est-ce qu'il a été produit, comment est-ce qu'elle a été produite, cette feuille de laurier, là ?
Ben, tout simplement, ça part d'un petit bloc de silex, pas très épais, parce que sinon, ça demande un temps fou, ou d'un gros éclat. On a débité un gros éclat, moi, c'est ce que j'ai fait avec ça. Donc, après, que dire ? Sinon, que ça demande un travail extrêmement minutieux et long pour enlever des éclats sur les deux faces, de manière alterne, et pour garder le côté linéaire de la pointe, et en même temps une grande minutie, parce qu'on peut, on en a trouvé beaucoup aussi de cassés sur les sites archéologiques, cassés à la fabrication, parce que ça demande un maintien dans la main très particulier, une préparation du point d'impact très minutieuse. Il faut être très précis, voilà. Et il faut avoir un percuteur bien préparé. Enfin, c'est vraiment un travail d'une très, très grande minutie qu'on arrive, nous, ben, je dirais qu'il y a très, très peu de monde qui arrive aujourd'hui à refaire ces feuilles de laurier. Même, je dirais que les plus sophistiqués, on n'a pas vraiment réussi à les refaire. On n'a pas réussi à refaire ce qu'ils avaient fait. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, quand vous réussissez ça, ça, par rapport à une lame taillée, ça n'a rien à voir, une lame taillée, une fois que vous avez préparé votre bloc, bon, c'est même pas une seconde, c'est un centième de seconde au moment où vous tapez, puis vous avez votre lame qui est faite. Là, c'est un dialogue avec la pierre qui dure une heure et plus. Donc ça veut dire que cette forme-là, en fait, c'est vous que vous projetez, d'une certaine façon. C'est votre savoir-faire. Elle est complètement personnalisée. Parce que, d'ailleurs, même nous, les archéologues, aujourd'hui, qui faisons ce travail-là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats, non pas sur le plan technique, performance, mais sur le plan des formes, par exemple. On va avoir des formes, moi, je peux reconnaître celle d'un collègue, je dis, ah ben ça, c'est, ça a été fait par un tel, ça, ça a été fait par un tel. Pourquoi ? Parce que on a une image mentale qui est... au fur et à mesure qu'on travaille, qui œuvre, quoi. On a une représentation de l'objet. Et cet objet, au bout du compte, quand on a passé un dialogue pendant une heure, deux heures, voire plus des fois, hein, ça dépend des objets, eh bien, cet objet, il vous représente. C'est vous qui êtes là, au bout de cet objet. Donc ça veut dire qu'ils ont dû prendre une importance, ces objets ont dû prendre une importance très grande, symbolique, dans la représentation de qui on est en tant qu'individu, mais aussi de qui est ce groupe. Parce qu'il produit ça et c'est son image, en fait. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont arrivés à un point, je dirais de non-retour, d'ailleurs, qui est que ces objets ne pouvaient plus être utilisés. Ils étaient vraiment trop fragiles. C'est donc resté des objets symboliques, d'un savoir-faire technique abouti, de quelqu'un qui est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. On ne peut pas aller plus loin, quoi. Faire plus que ça, ça veut dire que vous atteignez la transparence de l'objet, quoi, qui n'existe plus, quoi.
Et est-ce que ça vous permet de reproduire ces gestes techniques que faisait l'homme de la préhistoire? Ça vous permet de mieux l'imaginer?
Bien sûr, évidemment. Évidemment, parce qu'on voit là derrière toute une vie sociale. Toute une vie sociale et culturelle. Ces objets-là, ils ne sont pas comme ça nés, tombés du ciel. Ils sont le produit d'une culture qui a des besoins et qui répond à ses besoins, mais qui en même temps va beaucoup plus loin.
Vous vous mettez dans sa peau ?
Ah ben, bien sûr, d'une certaine façon. Je ne peux pas dire que je suis à sa place, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais être à la place. Pourquoi ? Parce que mon environnement n'est plus du tout le même. Parce que mon dialogue avec la nature n'est plus le même que ce qu'ils avaient eux. Je suis pas un animiste. Voilà, il faut, pour arriver à retrouver toutes les conditions qui étaient créées par leur culture, leur environnement et tout ça, c'est impossible à faire. C'est impossible. Mais ça nous permet de nous approcher. Voilà, de nous questionner sur. C'est ça qui est important. C'est de nous approcher et de mieux les comprendre, de mieux comprendre et de mieux réaliser ce que pouvait être la vie de ces groupes-là.
Et finalement, tout à l'heure, vous disiez qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir la même excellence. Et qu'est-ce que ça vous évoque un peu, quand on se voit un peu peut-être aujourd'hui comme un point très avancé du progrès, et pour autant, on n'arrive pas à reproduire des choses qui étaient faites peut-être 500 000 ans ou
Parce que nous, on a placé le progrès à un endroit où il n'existe pas, d'une certaine manière. Je veux dire, ces gens-là étaient complètement adaptés à leurs besoins, à leur environnement. Voilà. C'est-à-dire, ils répondaient à leurs besoins du quotidien. Ils n'allaient pas chercher le superflu. symboliquement, il faisait des choses qui allaient au-delà du nécessaire, mais il n'allait pas chercher le superflu des choses qui étaient inutiles. Pour eux, il était important de répondre à leurs besoins du quotidien, et ils y répondaient très bien. On en a la preuve, c'est pas quand on retrouve des squelettes de ces hommes-là, ils étaient pas mal nourris, ils avaient un développement corporel normal, ils avaient, voilà. Donc c'est pas des affamés qui cassaient du caillou et qui mangeaient des cadavres d'animaux. C'était des groupes très évolués sur le plan culturel, sur le plan technique, mais au niveau de leurs besoins. Donc c'était pas des primitifs au sens où malheureusement, ça a été le gros problème de la période de la colonisation, c'est-à-dire qu'on a essayé de comparer la préhistoire avec les groupes qu'on pensait primitifs. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on écoute bien ces groupes-là, ils sont en train de nous dire, eh bien voilà, vous voyez où vous en êtes arrivés aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'homme s'est mis au centre du monde et il a dit, les animaux ça m'appartient, les plantes ça m'appartient, ça, tout m'appartient et je vais gérer tout ça et je vais touiller tout ça. Alors que chez ces groupes-là, ils sont dans le cercle. Ils ne sont pas au milieu du cercle, ils sont dans le cercle. Et c'est les échanges, le dialogue et le partage entre les différentes composantes du monde, on parlait tout à l'heure des plantes, des animaux, qui fait l'harmonie du monde et qui fait que le monde va perdurer et va durer. Donc aujourd'hui, c'est une grande leçon pour nous qui vivons un moment, qui est un moment de rupture, justement, très important, avec notre environnement. Ces gens-là, ils avaient compris que s'ils voulaient continuer à vivre, il fallait respecter la nature, parce qu'ils prélevaient dans la nature de quoi se nourrir, de quoi vivre, mais ils n'en prélevaient que le nécessaire, l'indispensable. Et même, je peux vous raconter une anecdote vécue avec les aborigènes, qui va vous dire quelque chose là-dessus. Un groupe d'aborigènes était venu pour défendre leur site sacré qui était menacé par une exploitation minière en Australie, et ils étaient venus à l'UNESCO. Bon. En même temps, le ministère des Affaires étrangères avait demandé au ministère de la Culture, est-ce que vous ne pouvez pas, pendant leur séjour, leur faire visiter un de nos sites sacrés à nous ? Ils pensaient bien sûr à Lascaux. Donc c'est nous qui les avons reçus. Et en même temps, on avait charge, Jean-Michel et moi-même, de les accompagner dans leur déplacement. Et donc, ils ont séjourné ici, à la Moutte. Et on s'est retrouvés, à un moment donné, à échanger, à discuter, tout ça. Et un moment, me dit, est-ce que tu pourrais pas leur montrer comment nos ancêtres, pratiquement du temps de Lascaux, un tout petit peu avant, mais juste avant Lascaux, fabriquaient leurs pointes de chasse. Et là, ils étaient comme vous, devant moi, là. Je m'installe et puis je me mets à... C'était dans la grange, je me mets. Et puis je me mets à tailler ma pointe. Et là, le vaudoï, c'est-à-dire le chef de la tribu, chef, c'est pas le vrai nom, c'est celui qui est chargé de la parole, de la transmission, de tout ça. Et là, pendant que je fabrique la pointe, il parlait. Je regarde l'ethnologue qui était avec eux, qui était leur interprète, qui parlait leur langue, et c'était des Nyarinines. Donc, il me dit, là, il dit que tu es en train de faire la tête. Là, que tu fais les épaules. Là, que tu mets en place la colonne vertébrale. Là, que tu fais les hanches. Et là, que tu fais les jambes. C'est-à-dire, il décrivait la fabrication de la pointe comme la fabrication d'un nouvel être. Voilà. C'est-à-dire que la pierre, c'était un nouvel être qui était... J'étais en dialogue avec un être qui était la pierre. Enfin, c'est là que je me suis rendu compte aussi de cette partie animiste extrêmement importante. Et quand j'ai eu terminé ma pointe, je lui ai donné. Et là, il ne m'a pas dit, monsieur, c'est gentil, je vais le mettre maintenant. Il l'a prise comme ça, il s'est levé, il est sorti, il s'est agenouillé sur la pelouse, là, dehors, et il s'est mis à chanter, un chant rituel. Et là, tout le monde était... Parce que c'était vraiment un moment vrai, c'était pas du cinéma, c'était un moment vraiment réel, quoi. Et là, au bout d'un moment, une fois terminé, il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a parlé, Et là, il me dit, tu as fait le Wunan. Le Wunan, en langage aborigène, ça veut dire le partage. Donc, tu es invité à venir partager le kangourou. Et là, l'interprète, nous, me dit, attention, ce n'est pas une invitation à l'européenne. Ça veut dire que vous leur avez apporté un savoir, donc ça veut dire que vous faites partie du groupe Nyarinin. C'est ce qu'on appelle, l'ethnologue appelle la famille classificatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas les liens de sang qui sont importants, mais c'est les liens de partage. On a apporté quelque chose, on a permis au groupe de s'enrichir d'une certaine façon, d'une connaissance nouvelle, et à partir de ce moment-là, on est membre du groupe.
Et est-ce que voilà. Vous êtes allé en Australie alors ?
Alors, malheureusement, l'histoire est bien triste. Ils étaient venus, trois anciens, avec David Merjalay, qui était le Vaudoy, et un jeune. Et ils devaient transmettre au retour, lui passer le témoin, d'une certaine manière, comme lui l'avait reçu de la génération précédente, etc. Et on sait aujourd'hui, depuis 40 000 ans, c'est comme ça, dans le même site sacré. Vous voyez l'importance du site. Hein, nous, nos églises, elles ont quelques siècles. Eux, ça a 40 000 ans. C'est ce qu'ont apporté les anciens qui les ont précédés, qui ont transmis. Voilà, vous voyez l'importance de la transmission. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je devais aller là-bas, donc moi, j'étais en attente et je me disais, oulala, ça va être un moment complètement fou, quoi, bon, pour moi. Et puis là, un jour, je reçois un coup de fil du chargé de projet de l'UNESCO qui me dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il me dit, David Merjalay est décédé. Mais il me dit, il n'est pas décédé n'importe comment. C'est que tout simplement, il n'a pas pu transmettre parce que le jeune est parti vers la ville. Et ça veut dire que leur tribu, les 40 000 emmenés, se sont écroulés en un seul jour, quoi. Voilà. Et lui s'est laissé mourir de faim parce qu'il a pris conscience qu'il était le premier à faillir à son devoir de transmission. Voilà, c'est une affaire très... Moi, je pouvais pas la raconter, là. Je vous la raconte, mais quelques années après, je pouvais pas. C'était impossible pour moi. Je pleurais parce que j'avais tellement un souvenir de quelqu'un, David Merjalay, ce Vaudoy avait un regard et une parole qui vous pénétrait complètement.
C'est assez fascinant aussi d'entendre comme votre interrogation d'enfant qui vous a mis sur cette piste, qui était une interrogation technique, vous a emmené vers des choses qui sont liées au rapport au monde, qui sont liées à la compréhension d'une façon de vivre dans le monde.
Oui, c'est ça. Ce parcours, moi, m'a appris à être humain en même temps. C'est-à-dire que la préhistoire m'a amené à rencontrer justement ces groupes-là. Parce qu'on a travaillé, on travaille maintenant. Autrefois, la relation entre l'ethnographie et l'archéologie n'était pas une très bonne relation, puisqu'il y avait ce comparatisme ethno qui existait du temps de la colonisation et qui ont au contraire dégradé la vision que l'on avait de la préhistoire, en même temps qu'elle dégradait, bien sûr, la vision que l'on avait des groupes traditionnels, parce qu'il fallait qu'ils soient inférieurs à nous. C'était des pauvres mecs, donc c'est préhistorique. C'était d'ailleurs, on voit encore même dans la représentation qu'on a des hommes de la préhistoire, des choses aberrantes. Quand on voit, nous, les archéotechnologues, les instruments qu'ils ont fabriqués pour se fabriquer des habits sophistiqués, l'aiguille à chat, etc. Donc, quand on voit encore aujourd'hui les représentations qui sont faites des hommes de la préhistoire, c'est un scandale. C'est un scandale. On a gardé encore les traces de cette vision négative, alors que on a plein de leçons à recevoir d'eux, énormément de leçons à recevoir d'eux dans notre vie d'homme moderne. Dit moderne. Je dis bien dit moderne.
Donc vous avez réussi à répondre à cet enfant qui doutait.
Oui, je commence à bien y répondre, oui. C'est vrai. L'enfant qui doutait beaucoup d'ailleurs, hein, c'est vrai.